Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, du lundi au vendredi, dans cette émission, on vous parle de votre vie quotidienne, comment être bien ou mieux dans vos baskets, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, on s'occupe de tout.
Et puis Mélanie, c'est important de le rappeler, dans Bien fait pour vous, on vous donne la parole, on relaie vos questions, celles que vous nous laissez au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors au programme aujourd'hui, comme tous les matins, une grande question ouvre notre émission. Ce matin, c'est un mois sans porno, est-ce que c'est possible? En fait, c'est le défi lancé par une marque de préservatifs. L'opération est baptisée Sextember et c'est l'occasion pour nous de faire le point surtout sur la consommation de porno des jeunes, voire même des très jeunes, car aujourd'hui, difficile d'y échapper. À 12 ans, un enfant sur trois a déjà vu des images pornographiques. Pour en parler, nous recevrons la sexothérapeute Margot Fried-Fidioza.
Ensuite, à 11h45, Mélanie, ce sera notre séquence tendance avec toujours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, Benjamin Lévesque, notre journaliste beauté, nous détaillera les nouvelles techniques pour en finir avec les points noirs. Et Sophie Braffman sera également avec nous. Elle nous parlera des obsessions mode de la rentrée.
Enfin, Julia, dès midi, dans la partie santé de cette émission, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'arthrose. Alors, ça paraît pas sexy comme ça, mais c'est une maladie dont on peut au moins ralentir l'évolution. On vous expliquera comment, avec le rhumatologue, le professeur François Ranou.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre nouveau magazine Feel Good, dans lequel on vous propose tous les jours des conseils, des astuces pour vous faciliter votre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, Mélanie, notre question pour ouvrir ce magazine, la voici, la voilà. Un mois sans porno, est-ce que c'est possible? Alors on va s'intéresser principalement à nos jeunes et même à nos très jeunes, car pour eux, en 2021, il est vraiment difficile d'y échapper.
Oui Julia, on verra comment les protéger ou au moins les éduquer à ce qu'est la sexualité dans la vraie vie. Alors avant ça, lui, il est dans la vraie vie.
Bonjour, oui, j'attendais
voilà,
la transition.
Il parle
j'attendais.
Pour nous à des vrais gens tous les jours. C'est notre Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour et merci de m'avoir donné cette question.
Hein, pas évidente la question d'aujourd'hui.
Alors
hein.
Si vous nous rejoignez, chaque jour je pars dans la rue, je pose des questions à des personnes que je rencontre un petit peu au hasard. Là, je me suis dit, tiens, le sujet du porno va être sympa. On va se marrer. Finalement, le mot qui est ressorti, c'est la pudeur, parce que c'est très dur d'en parler. Même moi, en approchant avec mon micro, j'y allais doucement. j'ai commencé. Ça. Attention, voici ce que m'ont répondu la plupart des femmes.
Alors, en tant que nana, je pense qu'on peut se passer de porno, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas?
Ça peut résumer l'idée globale. Après, j'ai évidemment posé la question à des hommes. Il y a une réponse qui est ressortie. Il y a celle-ci quand même.
Bah, passer un mois sans porno, bien sûr que c'est possible. Mais en 1994,
voilà, en 1994, pas aujourd'hui. Avec Internet, c'est vrai que c'est partout. Même pour les enfants, malheureusement, il y a un accès qui est très, très facile. Il y a ceux, comme je vous le disais, que ça a embêté, que ça a presque un peu fait marrer au début.
Mais c'est bizarre, la question. Alors, franchement, en plus, je suis un garçon, donc j'imagine que pour certains, ça doit être compliqué. Honnêtement, quand on est bien accompagné, on peut s'en passer. Hein, et puis, on peut aussi s'en passer complètement, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Je suis pas un féru de ça. Donc, évidemment, j'ai pas de problème à m'en passer.
Petit détail que j'oublie, il y avait sa femme à côté.
Ah, voilà.
Oui,
tout, c'est
donc
ça.
Pareil, j'ai posé la question à une femme avec son homme à côté.
Est-ce qu'on peut se passer de porno pendant un mois? J'ai envie de dire qu'on peut aussi s'en passer toute la vie.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est quand justement ils sont en couple. Donc, j'ai dit, je vais prendre que des gens seuls. Voilà. J'ai posé la question à un monsieur qui se baladait tout seul.
Oula. Eh ben, je dirais oui devant ma femme, mais entre nous, non, c'est impossible.
Voilà,
c'est dur.
Là,
c'est
on
dur.
A l'honnêteté. Là,
c'est dur d'avoir l'honnêteté.
Une fois que vous les séquestrez, il y a le vrai, la vraie vie qui sort.
Le vrai, je l'ai eu. J'ai eu la vraie réponse. Et surtout, j'ai eu cette dame qui m'a expliqué pourquoi elle avait un. On peut parler de problème avec le porno.
Le vrai problème dans le porno, c'est les scénarios, quoi. C'est. Je sais pas, enfin, il y a un mec qui vient voir une nana et qui lui dit alors, comme ça, on porte pas de culotte aujourd'hui. Enfin, c'est juste. Je sais pas, personne n'y croit, quoi. C'est nul, il y a même pas de suspense, il y a pas d'écriture. Moi, je trouve ça... En fait, ça me fait rigoler plus qu'autre chose. Donc, j'arrive pas à... Ça m'excite pas, en vrai. C'est drôle. Et ça s'arrête là, c'est tout.
C'est vrai qu'il faudrait engager des auteurs. Hein, parce
il faut des auteurs. Il faut qu'on va les écrire, nous, finalement, les prochains scénarios. Films. Donc voilà, je me suis promené dans la rue. Mais c'est vrai que les gens ont vraiment peur et un problème de
sujet tabou. Hein,
de
et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Évidemment.
Parce qu'ici, il n'y a pas de tabou, justement.
Ah bah, je vais rester, du coup.
Ah bah, restez avec nous, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr lundi pour toujours plus de reportages, de témoignages et de sourires.
Allez, elle aussi, elle est dans la vraie vie. C'est notre invitée du jour, c'est Margot Fried-Filioza. Bonjour Margot.
Bonjour.
Vous êtes sexothérapeute et la co-auteure du livre « Sexpérience » paru chez Robert Laffont. Alors, une marque de préservatif, Eden Gen, a décidé de lancer l'opération Sextember, un mois sans porno à destination plutôt des jeunes. Margot, vous en pensez quoi déjà en tant que sexothérapeute de ce mouvement, de un mois sans regarder de film X, enfin ce défi ?
Je trouve que c'est une super, super idée parce que c'est pas pareil que dire « arrêtez de regarder du porno, le porno c'est mal, c'est fini ». Par contre, de dire « un mois sans porno et voyez ce qui se passe ». Voyez, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous vous sentez le besoin d'aller regarder ? Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre corps ? Et ce que j'aime bien dans leur campagne, c'est aussi qu'ils proposent d'autres options. Comment est-ce qu'on se reconnecte à son corps ? Comment on fait sans porno ? Et donc pour moi, c'est ça qui est génial dans cette approche de dire un mois sans porno. On fait l'expérience de faire quelque chose différemment en conscience.
Alors que disent les chiffres, Margot ? Est-ce qu'on sait à partir de quel âge, en moyenne, un enfant est confronté à la pornographie ?
Elle dit un enfant, ça va peut-être un peu fort. Ce sont des enfants, vraiment ?
Ce sont encore des enfants, oui, parce qu'au final, ils sont vraiment très très jeunes. Alors, ça a été dit tout à l'heure, mais en France, un enfant sur 3 à 12 ans a déjà vu un film pornographique. Mais il y en a aussi 1 sur 10 qui le découvre avant 11 ans.
Wow, ouais.
Et moi, j'ai plein d'histoires de parents qui me disent « Mon enfant, il a 5 ans et il a vu des choses. »
Non, mais à 5 ans, ouais. Il y a des gamins
Internet,
qui tombent sur des films
porno. Quand c'est pas bien surveillé par les parents, il peut y avoir des choses effectivement inquiétantes, des images en tout cas très choquantes à des jeunes, déjà très jeunes.
J'imagine, ouais, j'imagine que c'est pas la même chose de tomber sur une image porno à 5 ans qu'à 12 en plus, non ?
Pas du tout la même chose.
Clément, ça vous inspire quelque chose ?
Je me demandais s'il y avait des chiffres pour les adultes, justement, si on sait en consommation, s'il y a un pourcentage d'adultes.
Je pense que votre micro-trottoir parlait de lui-même,
ouais, voilà.
Les hommes,
à mon avis. Ouais. Féminin, j'imagine.
Ce qui est intéressant, c'est ce que les statistiques nous disent, qui sont quand même des statistiques un peu floues, parce qu'au final, c'est quand même difficile de savoir qui fait quoi dans l'intimité, ouais. Est-ce qu'on dit devant sa femme ou pas, comme on a très bien vu dans le micro-trottoir. Statistiquement, les hommes regardent plus de porno, mais les femmes regardent du porno plus violent.
Ah oui.
Ah bon ?
Incroyable.
Vous ne les avez pas trouvées, celles-là, hein ?
Je
ne
les
rue,
ai pas, non. Ou alors, elles ne se sont pas manifestées.
C'est ça.
Ouais, vous imaginez, là, effectivement, beaucoup de pudeur, j'imagine, par rapport à une réalité comme celle-ci. Alors, contrairement à ce que l'on pense, les ados ne cherchent pas à tout prix à regarder un porno. La première fois, c'est souvent un accident. Hein.
C'est ça. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on a tendance à dire « Ah, les ados, ils veulent aller voir, tout ça ». Il y a une partie de réalité, on se pose des questions, on est curieux quand on est ado. Mais aujourd'hui, on a besoin de mesurer que c'est vraiment du contenu non désiré. Donc ça va arriver sur leur téléphone, sur Instagram. Et le plus souvent, je pense que les ados ne sont pas exposés au porno sur les plateformes pornographiques, mais sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, par des messages ou alors quelqu'un qui leur montre. On ne se rend pas compte à quel point les réseaux sociaux sont sexualisés. Ouais. Aujourd'hui, il y a des danses hyper sexy de jeunes filles qui ont 10 ans, 12 ans, qui ne devraient même pas avoir de compte sur ces réseaux et qui sont là en culotte et en petite dentelle en train de se trémousser. Et je pense qu'il y a aussi une question de définir c'est quoi du porno ?
Ouais, c'est
à quel, à quel point est-ce que c'est une danse pour avoir des likes ? Ou est-ce que c'est du porno ? Où est la ligne, en fait ?
Bien sûr, parce que déjà, une danse lascive d'une gamine de 11 ans, effectivement, est-ce que ce n'est pas déjà un début d'imagerie porno pour un gamin qui n'a rien demandé ?
C'est ça. Moi, je pense que ça l'est et que ça vient montrer de la sexualité déjà.
Parce que je vais prendre ma propre expérience. J'ai 37 ans et petit, nous, on avait un petit ado. C'était même de l'érotisme qu'on pouvait voir à la télé. On voyait un bout de poitrine, ça nous...
Ça vous émoustillait.
Et encore,
hein.
Fallait attendre le soir tard et tomber dessus, pas par hasard, mais le guetter presque.
Bien sûr. Ouais. Maintenant, ça arrive à vous.
Ouais.
Margot, vous restez avec nous. On va poursuivre ce décryptage, ce défi ce matin. Un mois sans porno, est-ce possible ? Un challenge à destination des jeunes pour les inciter à découvrir ou redécouvrir leur corps, le désir, la sexualité loin des écrans. Comment leur parler de ces sujets pas évidents à aborder parfois ? On va vous détailler tout ça. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans son adolescence, sa jeunesse ce matin avec cette question. Un mois sans porno, est-ce possible? C'est le défi Sextember lancé par la marque de préservatif EdenGen qu'on s'appuie pour aborder les questions de la sexualité, de la vision de la sexualité chez les jeunes. Et je vois que Clément Lanoux est resté avec nous, c'est bizarre.
Mais je trouve le sujet hyper intéressant, c'est effectivement.
Mais oui, il est ce sujet très intéressant, Mélanie. Et pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, c'est Margot Fried-Fillosa qui est avec nous en studio. Margot, je rappelle que vous êtes sexothérapeute et co-auteur du livre Sexpérience, publié chez Robert Laffont. Alors, on l'a dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes et révèlent qu'il y a un problème. Un jeune sur trois de 12 ans a déjà vu des images pornographiques. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si moi, par an, je découvre, parce qu'il m'en parle ou pas d'ailleurs, que mon ado est tombé sur un film porno, comment je réagis?
Pose une question. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu te dis? Souvent, en tant qu'adulte, on a tendance à paniquer. « Oh mon Dieu, mon ado a vu du porno !» Et ce qui manque, c'est des outils pour comment est-ce qu'on en parle. Parce qu'en soi, le danger, c'est pas vraiment qu'il ait vu du porno, mais c'est qu'est-ce qu'il en a compris, qu'est-ce qu'il en a retenu et qu'est-ce qu'il va faire de ces images.
Donc en fait, on interroge l'enfant ou l'adolescent sur son ressenti pour savoir où il en est, c'est ça?
Déjà, parce qu'en plus, on ne sait pas, il peut nous dire qu'il a vu du porno, mais on ne sait pas s'il l'a cherché, s'il est en train de nous le dire. Et je pense qu'un ado qui ose dire à son parent déjà « j'ai vu du porno »,
c'est plutôt bon signe.
C'est génial. Ouais. Et c'est quand même une demande d'aide. C'est, on ne vient pas parler à son parent comme ça d'un sujet pas facile à aborder. Si on n'a pas un besoin quelque part à l'intérieur.
D'en parler. Et Margot, si on s'aperçoit pour le coup que, alors là, c'est pas juste qu'il est tombé dessus par accident et il est venu nous en parler, mais que si on se rend compte qu'il en consomme régulièrement parfois, on va faire un tour dans l'historique, on découvre que le porno, il y est déjà habitué depuis un petit moment. Là, on n'a peut-être pas la même réaction. Comment on réagit là pour le coup?
Je pense que c'est important de ne pas avoir une conversation confrontationnelle, frontale. J'ai vu que tu as vu du porno, c'est mal, ne fais pas ci. C'est important de venir fournir des informations. Une chose est sûre, c'est qu'un ado qui cherche à regarder du porno, on ne peut pas l'empêcher de regarder du porno. Il en verra de toute manière, même si on met un contrôle parental ou un truc. Les ados aujourd'hui sont plus doués que leurs parents.
Et lui dire « je t'interdis de le faire », ça ne sert à rien.
Et puis surtout, les parents ne veulent pas que les ados regardent du porno pour les messages que ça communique sur la sexualité, parce que ce n'est pas de leur âge pour tout ça. Mais du coup, si l'ado est déjà en train de regarder du porno, c'est qu'il se pose des questions. Et on le voit, les adolescents, quand on leur demande « Pourquoi est-ce que vous regardez du porno ?», une grande, grande majorité d'entre eux répondent « Pour apprendre ».
S'ils posent la question et qu'ils recherchent, c'est qu'il a peut-être déjà... En fait, à partir du moment où ils posent la question, c'est qu'ils ont presque l'âge d'avoir une certaine réponse, en tout cas.
Exactement. Ouais. Et donc, je pense que c'est aux parents, justement, si on est confronté à ça, de dire « Ok, il a des questions ». Amenons-lui des réponses. Donc, c'est à lui acheter un livre, comme le mien d'ailleurs.
Expérience.
Il y a tout un chapitre sur les coulisses du porno. Ou alors, l'inviter, lui envoyer des liens pour regarder des témoignages d'anciens acteurs et actrices du porno, parce que c'est hyper informatif. Je pense que le vrai enjeu, c'est d'enseigner aux ados à réfléchir et à décoder ce qu'ils voient.
Oui, parce qu'on n'est pas là pour diaboliser le porno non plus. Et on ne va pas le faire disparaître aujourd'hui, mais en tout cas, décrypter, comprendre ce qu'il y a derrière ces images aussi.
C'est ça. Et diaboliser, ça ne sert à rien, à part rajouter de la honte. Et du coup, on reste avec ces images qu'on n'a pas su interpréter et dont on a honte, donc on ne peut pas parler.
Bien sûr, et puis ça invite évidemment à recommencer si on n'a pas eu les réponses de la part de ses parents. Donc si je comprends bien, Margot, on peut aussi expliquer que les images, on peut décrypter et dire les images que tu vois, c'est un peu truqué aussi, parce qu'on le sait, c'est quand même très fabriqué le porno. D'ailleurs, vous conseillez de faire un parallèle avec les films de super-héros. Alors expliquez-nous.
Tout à fait, parce que et c'est intéressant ce que vous
écoutez
venez
bien
dire.
Clément.
Oui, je prends des notes. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une campagne
super-héros
de...
et porno. Voilà. Tout ça,
il y avait une campagne de pub sur les images choquantes, sur les films d'horreur, mais il n'y a jamais eu vraiment sur la sexualité.
C'est ça.
Mais j'attends la comparaison avec les super-héros.
Et c'est très intéressant parce que vous avez dit, on le sait bien, c'est truqué. Mais en vrai, quand je pose la question autant à des adultes qu'à des ados, est-ce que le porno représente la réalité? Pour les adultes, oui, il y a un peu plus de non. Pour les ados, je dirais que c'est 50-50. Parfois, c'est « mais non, madame, on sait ». Parfois, c'est « ah bah oui, plus ou moins ».
D'accord. Donc, il croit pour certains ce qu'il voit.
Que ça se passe comme ça dans la vie.
C'est ça. Mais certains adultes aussi, ce qui est insidieux, c'est qu'on ne se rend pas compte de à quel point ça ne représente pas la réalité. Et c'est là où j'aime bien le parallèle avec un film d'action. C'est qu'on sait très bien quand on va au cinéma et qu'on voit le super-héros sauter du 15e étage d'un immeuble, se raccrocher à un lampadaire, rebondir sur la poubelle et sortir sans égratignure.
Il y a des effets spéciaux.
C'est ça. C'est-à-dire que.
Clément Lanoux est capable.
Hein, bah, voilà, je veux dire, Belmondo faisait ses cascades. Voilà. Lui-même, il y a quelques exceptions qui peuvent faire ce qu'ils veulent eux-mêmes.
C'est ça. Mais quand tu regardes ça, tu ne te dis pas « Je vais faire pareil, ça va vraiment impressionner ma meuf ». Non, on sait très bien que c'est truqué, que c'est, même si ce n'est pas surnaturel, on sait que c'est un cascadeur, qu'il y a eu un protocole de sécurité.
Bien sûr.
Là où dans le porno, bah, on voit des gestes qui peuvent paraître être faits naturellement. En fait, on voit des pénétrations qui peuvent paraître être faits naturellement. On ne voit pas que la femme, ça fait 4 heures qu'elle se prépare pour cette pénétration. On ne voit pas que ça fait depuis la veille qu'elle n'a rien mangé. On ne voit pas qu'il y a des pauses de coupe pour nettoyer, pour faire une pause, parce que quelqu'un a une petite panne, parce que ça irrite, parce qu'on a besoin d'une pause. Tout ça, on ne le voit pas. Et donc, on a des images qui semblent naturelles, comme dans un film d'action.
Mais ça doit développer des complexes aussi auprès de nos ados.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous intervenez justement dans les établissements scolaires avec les jeunes, au plus près de cette jeunesse justement qui est confrontée à ce porno. C'est quoi qui ressort le plus en termes de complexes ?
C'est beaucoup de « est-ce que je suis obligée de, en fait ? Est-ce qu'il faut ? » Ça va être donc beaucoup sur le corps, c'est certain. Au niveau
sur la taille aussi,
De la taille pour les hommes, de la taille pour les femmes, des petites lèvres, des grandes lèvres, des seins, des fesses, de tout ça. Mais ça va aussi, j'ai l'impression, beaucoup être sur des pratiques. Est-ce que c'est obligé de tout faire la première fois ? Est-ce que je suis obligée de... Si je ne fais pas, est-ce que je vais devoir ? Et surtout, une question, moi, qui m'interpelle beaucoup et qui revient souvent, c'est comment dire que je suis vraiment amoureuse et que je n'ai pas juste envie de coucher sans passer pour une nulle.
Ah oui, carrément. Alors, avant, on avait peur de passer pour des salopes, excusez-moi. Et maintenant, on a peur de passer pour une fille, par exemple, pas assez chaude, c'est ça ?
Pour une prude, pour une...
Ça banalise aussi la brutalité, tout ça, non ?
Tout à fait.
Que les acteurs aussi sont souvent, peut-être pas dans tous les films, mais on sait qu'il y a des substances qui sont prises par les acteurs justement pour durer plus longtemps, enfin des médicaments, etc. Et ça, ils ne le savent pas, les jeunes. Donc c'est important de préciser, tu seras pas, ça dure pas forcément aussi longtemps dans la vraie vie. C'est difficile de maintenir une érection pendant tant d'heures, parce qu'il y a de la chimie derrière ça. C'est important de leur dire aussi.
Complètement, il y a de la chimie. Donc il y a des produits pour durer plus longtemps, pour avoir une érection plus dure, mais aussi pour désensibiliser, pour ne pas ressentir la douleur. Donc on va donner de la lidocaïne. Donc il y a tout ça qui sont des pratiques extrêmes qui en effet font que certaines pratiques qui sont extrêmes ne le semblent pas.
On a moins envie de regarder du porno après tout
non,
ça.
Non, mais c'est, moi la question que je me pose, c'est les conséquences à long terme sur le fait que l'imaginaire ne fonctionne plus. En fait, si on est, j'imagine, nourri, je sais pas, tous les jours ou toutes les semaines d'images comme ça,
dès 12 ans,
on oublie. Moi j'aime bien l'imaginaire parce qu'on finalement choisit ses acteurs et ses histoires.
Complètement. Donc ça diminue l'imagination en fait de regarder du porno parce que ça ne vient plus de nous. Et j'ai bien aimé ce que la femme disait dans le micro-trottoir de tout à l'heure, où elle disait « Ah, les scripts sont nuls
». C'est moi, plus drôle qu'excitant, elle disait.
Je pense que c'est encore plus triste que ça. Parce que quand moi, je regarde du porno, je suis triste, pas pour les scripts, mais parce que je vois que les femmes ne prennent pas de plaisir. Parce que moi, je sais à quoi ça ressemble une femme qui est en érection, dont le sexe de la femme est engorgé, est excité. Une femme qui vraiment a du plaisir. Et moi, je n'arrive pas à regarder du porno.
Mais les hommes
plaisir,
aussi, j'imagine. J'imagine qu'ils le font entre... Ils vont au boulot, ils se disent, tiens, moi, je vais récupérer les enfants à 4h30. Là, je termine la vraie vie des acteurs, j'imagine.
Complètement.
C'est des travailleurs du sexe.
C'est des travailleurs du sexe, c'est un travail. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui prennent du plaisir. Parce que, bien sûr, mais il y a quand même une majorité où, en fait, c'est pour de faux. Et du coup, ça éduque à une certaine image où on fait les gestes, on ne parle pas. On ne se pose pas la question de ce que c'est juste ou pas.
Alors, parlons un peu de la pilosité, parce qu'on voit beaucoup d'ados qui veulent se raser pour ressembler aux acteurs porno ou aux actrices porno. Parfois même, ce sont les parents qui sont à l'initiative de l'épilation. C'est assez étonnant quand même.
C'est assez étonnant, je vous l'accorde. C'est vraiment une norme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épilation, c'est quelque chose d'au final assez récent. C'est vraiment que depuis que le porno est passé à l'image. Parce que si on regarde à la vidéo, pardon, si on regarde le porno
du début du siècle,
de il n'y a pas si longtemps en fait, on voit des images de sexe bien poilues. Et justement, on montrait très peu, c'est-à-dire qu'on voyait quelques poils pubiens qui dépassaient de la culotte et qu'est-ce que c'était érotique. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la vidéo, Ce qui s'est passé, c'est que les réalisateurs de porno voulaient avoir une meilleure vue de l'intromission, donc de l'entrée en fait, de la pénétration.
Donc ils ont enlevé les poils.
Et du coup, ils ont enlevé les poils.
Bon.
Margot, Frit Fidioza, on reste encore un peu ensemble. On va aborder juste après des questions vraiment concrètes. Comment faire de la prévention à la maison, avec nos ados? Le contrôle parental sur les écrans, sert-il à quelque chose? Comment parler de sexualité avec eux, tout simplement, sans que ce soit gênant ni pour eux, ni pour nous? On y revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est votre magazine dédié à votre vie quotidienne et à celle de vos proches, de vos enfants plus précisément ce matin. On se pose cette question parce que oui, clairement, c'est plus du tout un sujet anecdotique en 2021. Un mois sans porno, est-ce que c'est possible? Et à quoi ça peut bien servir pour nos jeunes? Car c'est à eux que s'adresse ce défi, Mélanie.
Exactement, Julia. Je vous donne un autre chiffre. 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans des pornos. Un chiffre préoccupant lorsqu'on connaît les représentations, certaines représentations en tout cas véhiculées par ce secteur. Alors justement, pour nous aider à protéger nos jeunes, à mieux les éduquer sur ce sujet, elle est toujours avec nous, la sexothérapeute Margot Frit Fidioza. Alors Margot, parmi les solutions pour les protéger, il y a un truc qu'on connaît tous qui s'appelle le contrôle parental sur les écrans. Bon, est-ce qu'il rit déjà, Clément Lanoux est avec nous.
Oui, oui.
Ça sert à rien pour nos ados à la maison, le contrôle parental, ils sauront le défaire, quoi, c'est ça.
Moi, j'aime bien parler plutôt de prévention, c'est-à-dire d'outils de prévention contre les contenus indésirables. Et de dire, on s'allie ensemble, parce que si tu as envie de regarder du porno, on sait très bien que tu y arriveras. Par contre, il y a une nuance entre, il y a plein de contenus qui arrivent sans ton consentement, sans que tu les choisisses sur ton téléphone. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas du tout le mot contrôle parental. Je préfère protection contre les contenus indésirables. Je trouve ça beaucoup plus pertinent.
Est-ce qu'il faut, alors à ce moment-là, j'ai l'impression que non, mais interdire à nos enfants de regarder du porno? Est-ce qu'il faut mettre des règles très strictes? Je ne veux pas que tu regardes du porno.
Je pense que ça ne sert à rien.
D'accord.
Ils y arriveront quand même.
C'est ça.
Il faut y aller à la confiance, en fait. Il faut arriver à leur faire comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas du vrai. D'avoir le dialogue et la communication, j'imagine, mais d'un autre côté, ils sont plus forts que nous, ils arriveront à déverrouiller, à faire ce qu'ils veulent.
Et Margot, il y a peut-être des parents qui nous écoutent qui se disent « Ok, bon, c'est bien tous ces sujets autour du porno, de la sexualité, mais moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec mon ado pour discuter de tout ça, parce qu'on est plus ou moins à l'aise sur ces thématiques. Est-ce que c'est possible de confier ça, qui est une mission importante quand même de l'éducation de nos enfants, à, je sais pas, un proche, un parrain, un tonton qui sera lui peut-être plus à l'aise? Ça va, on peut se décharger de ça?
On peut. C'est pas se décharger, mais c'est partager la responsabilité. Je pense que c'est une nuance qui est importante. Et je pense que c'est en effet génial que ce soit la tante ou la grande cousine ou la grande sœur qui puisse parler de ces sujets-là. Ça, pour moi, ça me paraît une super idée. Plutôt que se forcer à avoir une conversation à laquelle qui est compliquée.
Alors, je vous propose qu'on fasse un petit pas de côté sur le sujet. On va prendre en ligne à présent Carmina. Bonjour Carmina, vous êtes réalisatrice et performeur pour Carré Rose Film. Bonjour. Bonjour. Alors Carmina, est-ce qu'il faut pour autant diaboliser le porno pour les jeunes adultes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Non, je ne pense pas qu'il faut diaboliser le porno, pas du tout, ni pour les jeunes adultes, ni pour les adultes. Il faut garder en tête que le porno, c'est du cinéma, c'est du divertissement, et plutôt que de diaboliser, il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut de l'éducation sexuelle et il faut aussi de l'éducation à la pornographie, à comprendre ce qu'on est en train de regarder. Et bien garder en tête que c'est du divertissement, c'est du cinéma.
Carmina, justement, vous réalisez d'ailleurs un autre style de porno, un porno éthique, alternatif. Expliquez-nous ce qui change, c'est quoi un porno éthique ?
Disons que moi, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est que toutes les personnes qui participent en fait à la construction du film soient heureuses de le faire, soient contentes d'être là et se sentent respectées et incluses en fait dans la production. J'essaye de faire un porno qui va être plus inclusif aussi de diverses sexualités, de diverses orientations sexuelles, de diverses identités de genre. Et j'essaye également de montrer une plus large représentation des corps.
Et une plus large représentation de la femme objet, tout ça c'est fini, non ?
C'est fini, ça dépend. Si la femme a envie d'être une femme objet, elle a le droit. Et à ce moment-là, c'est aussi son choix. Et donc moi, c'est ça surtout que je privilégie, c'est le choix. C'est que les performeurs ne sont obligés de rien faire s'ils n'ont pas envie de le faire. Et qu'on discute avant la scène de quoi tu as envie, de quoi tu n'as pas envie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Et je n'en pose rien. Donc la femme objet, seulement si elle est d'accord.
Et pour le faire, ce porno éthique, je crois que vous mettez de plus en plus, enfin le plus possible en tout cas, de femmes aux manettes. Hein.
Oui, déjà moi-même, j'ai décidé décidé de créer ma société de production et de réaliser mes propres films parce que justement je ne trouvais pas les représentations que je souhaitais dans le porno. Et j'essaye de m'associer le plus possible avec des femmes et des personnes LGBT pour justement qu'on ait un point de vue différent que celui qui a été servi pendant de nombreuses années, notamment en France, mais également aux États-Unis, c'est-à-dire un porno qui est fait par des hommes, cis hétéro, pour des hommes, cis hétéro.
Est-ce qu'on peut dire, Carmina, que votre cinéma se rapproche davantage de la réalité? Parce que jusqu'à présent, on parlait des choses qui étaient truquées, hein, puisque c'est du cinéma, et on en a parlé. Est-ce que le vôtre, c'est un cinéma réaliste?
J'aime pas trop le terme parce que ça n'a pas vocation à être de la réalité, ça n'a pas vocation à être de l'éducation non plus, ça n'a pas vocation à être un support sur lequel on doit pour apprendre la sexualité ou pour apprendre une certaine vérité. Cependant, on peut dire que, en tout cas au niveau en termes de représentation, j'essaye d'aller de plus en plus vers une certaine réalité des gens qu'on pourrait croiser tous les jours, et j'utilise assez peu d'artifices pour le moment, c'est-à-dire que on reste sur des choses qui sont assez naturelles. Et en ça, peut-être que ça peut s'approcher d'une certaine réalité, mais en tout cas d'une réalité filmée à un instant T avec une personne ou deux personnes, et donc en aucun cas c'est représentatif de la sexualité réelle dans son ensemble.
Merci beaucoup Carmina d'avoir été en ligne avec nous pour cet éclairage donc sur ce porno différent, porno éthique. Merci encore. Je reviens vers vous Margot Fried-Fidiosa, donc tout ce qu'on vient d'entendre sur ce porno différent, je ne sais pas si celui-là il est mieux pour les ados ou pas, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient d'entendre en tout cas?
Je pense que c'est génial d'avoir du porno qui est respectueux de la femme, des acteurs, parce que c'est ça aussi, on ne se rend pas compte de tous les abus qui se passent sur les plateaux. Donc c'est important d'avoir un porno qui soit plus respectueux. Mais encore une fois, comme ça a été dit, ce n'est pas vocation à être de l'éducation. Donc il y a besoin de faire de l'éducation en parallèle.
Et heureusement que vous êtes là pour ça. Alors imaginons les jeunes qui se lanceraient dans cette opération un mois sans porno. Imaginons qu'il n'y arrive pas à tenir. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, parler d'une addiction au sexe?
Je pense que c'est une addiction à la pornographie plus qu'une addiction au sexe. Moi, j'en reçois beaucoup, de plus en plus, des jeunes qui sont addicts. Mais même en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe, en fait, un mois sans porno? Parce que ça active les mêmes mécanismes dans notre cerveau qu'une addiction à toute autre drogue, en fait. C'est le circuit de la récompense. Et donc, c'est vrai que ça peut être très difficile, en fait, de se priver de ça, quelque chose qui est devenu habituel.
Mais c'est quoi les conséquences si on compare à l'alcool ou à la drogue? On sait que les conséquences, il y a un ravage sur le corps, sur la santé. Là, est-ce qu'il peut y en avoir une aussi pour quelqu'un qui est addict? Et à partir de quand on est addict? À partir de combien de fois?
Le porno ne donne pas le cancer.
Voilà,
quoi,
c'est ça que je veux dire.
Le porno ne donne pas le cancer. Par contre, quand on est vraiment... C'est-à-dire que c'est une chose de pas réussir à se passer de porno pendant tout un mois. Quand on est vraiment dans de l'addiction, c'est des jeunes ou des adultes qui sont en souffrance. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de compulsif dedans. Pour moi, la différence entre tout va bien et il y a un problème, c'est est-ce que je suis en souffrance? Oui. Est-ce que ça me stresse? Est-ce qu'il y a une approche compulsive de la chose?
Dans ces cas-là, on peut évidemment consulter des gens comme vous.
Bien sûr.
On sait par exemple que pour le tabac, un mois d'arrêt multiplie par 5 les chances d'arrêter complètement de fumer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un mois sans porno, ça pourrait avoir un impact sur la consommation à l'avenir?
Complètement. Je pense que du coup, dans ce mois sans porno, on est obligé d'apprendre à faire différemment. On est obligé d'apprendre à rencontrer son propre corps, à découvrir comment se toucher. Ah ben tiens, qu'est-ce qui fait du bien à mon corps si j'appuie pas juste sur le bouton explosé, rapide et saturation des systèmes nerveux, des systèmes sensoriels. Si j'apprends à contacter mon corps, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on développe une compétence. Parce que pour moi, la sexualité, c'est une compétence, c'est un art. Que si on est constamment avec du porno ou avec un vibrateur, c'est la même chose en fait. C'est utiliser quelque chose d'externe pour créer des sensations internes. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des périodes où on n'utilise pas ces substituts pour apprendre à se rencontrer soi-même.
Oui, parce qu'il ne faudrait pas confondre un mois sans porno avec un mois sans sexe. Hein.
Non, ce n'est pas du tout la même chose.
Un mois sans plaisir, un mois sans...
Ce n'est pas du tout, la même chose.
Et justement, réapprendre à se faire plaisir en couple ou tout seul, ouais. Mais avec d'autres supports qui seraient donc quoi? Un support imaginaire?
Ah, justement, le porno, ça va nourrir, ça va donner des images. Et moi, je ne suis pas du tout à encourager les fantasmes, tout ça, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de mental. On est dans notre tête. J'ai plein de couples ou de femmes, d'adultes qui viennent me voir en me disant « Moi, j'ai besoin de fantasmes pour m'exciter. » Et là, mon travail avec eux, c'est de leur apprendre à ressentir les sensations dans leur corps.
C'est presque de la méditation, en fait. Hein.
Le sexe, c'est de la méditation.
Ah bon ? D'accord.
C'est une méditation. Jouir, c'est méditer. C'est apprendre à sentir ce qui se passe dans notre corps. Parce que c'est ça aussi, la société de la consommation nous voit un certain piège en disant bah, « en fait, c'est des images, c'est des positions, c'est sexy, c'est de la lingerie, c'est tout ça. » Mais en fait, non, le plaisir, on le ressent où ? Dans notre corps. Notre corps, si on ne sait pas en ressentir les sensations, on ne va pas ressentir de plaisir. Et donc moi, c'est tout mon travail, surtout avec les adultes. Avec les ados, je fais plus de la prévention, tout ça. Mais avec les adultes, mon travail, c'est comment est-ce qu'on fait pour ressentir pleinement, profondément, son corps, pour y vivre le plaisir qui est possible d'y vivre.
Bon, bah écoutez, Margot, on a compris.
Hein, la sexualité, c'est de la méditation.
Oui, voilà. La sexualité, c'est de la méditation. Ça vaut le coup d'essayer. Le mois sans porno, c'est parti à partir de maintenant.
C'est parti, top chrono.
Top chrono. Non, merci beaucoup, Margot, Fried, Fiosa, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Merci surtout pour vos conseils pour les adultes que nous sommes, pour les parents que nous sommes et aussi pour les ados et enfants qui nous écoutent, peut-être. Pour ceux qui voudraient davantage d'informations, c'est vraiment un livre, hein, le vôtre, à mettre entre toutes les mains des jeunes. Je rappelle le titre, Sexpérience, chez Robert Laffont. Merci encore. Alors à présent, Mélanie, il est temps de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Et oui, Julia, on va accueillir dans ce studio dans un instant nos deux chroniqueurs du jour. D'abord, Benjamin Lévesque, qui va partir à la chasse au point noir avec ses nouvelles méthodes qui permettent de s'en débarrasser. Et puis Sophie Braffman, qui va nous parler de ses obsessions mode de la rentrée. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, c'est votre nouveau magazine positif. Ici, on vous livre tous nos conseils, nos bons plans pour prendre soin de vous. Et donc maintenant, Julia, on va démarrer la séquence tendance de ce magazine.
Avec plaisir, Mélanie. Une séquence dans laquelle on va en général de découverte en découverte. Et justement, pour commencer, Sophie Braffman, bonjour. Vous êtes notre spécialiste mode dans cette émission. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ces obsessions de la rentrée, c'est-à-dire.
Alors, les obsessions mode, Julia, et je les ai même classées, catégorisées, si je puis dire, en trois thèmes assez évocateurs. Ça va vous plaire.
Ah, on a hâte. Merci Sophie. On revient vers vous dans quelques minutes, mais pour démarrer, on va donner la parole à un homme qui nous plonge chaque semaine. Voilà, un autre spécialiste, mais de la beauté, dans le monde de la beauté. Et là, aujourd'hui, c'est un monde sans points noirs que vous nous promettez, Benjamin.
Bah oui, parce que Mélanie, plus vous aurez de points noirs.
Bah, pourquoi vous adressez à moi
Ah oui, c'est vous moi qui vous donne la question. Parole, bah... bah, ou Julia,
non,
plus vous aurez de points noirs.
Jamais.
Plus votre teint sera terne. Donc, et puis un point noir, si on ne fait rien, ça peut se transformer en bouton. Et donc, ça ne rime pas avec beauté. Alors, pour comprendre ce qu'est un point noir, il faut imaginer sa peau du visage comme une passoire avec, vous savez, avec des centaines de petits trous. Et en dessous ces petits pores, eh bien, la peau va sécréter du sébum, donc du gras, qui va s'accumuler et boucher ces petits trous. Et paf, vous aurez un point noir. Alors, à la base, le gras, il est transparent, mais il va s'oxyder, comme l'explique Cyril Tellinge, il est le fondateur des laboratoires Novexpert.
C'est que dans ce petit amas de sébum, vous avez également un petit peu de mélanocyte. Alors, vous savez, c'est le pigment responsable du bronzage. Et vous avez donc votre pore, donc c'est la fin de ce petit canal, qui va être à l'air libre et qui va être en contact avec l'oxygène de l'air. Et l'oxygène fait rouiller, et pas que le fer, mais aussi nos petites cellules. Et le sébum et la mélanine vont s'oxyder, et en s'oxydant, vont prendre la couleur noire.
Voilà, et ces points noirs, on les retrouve principalement sur la zone T du visage, hein, donc le front, le
nez... Ah oui,
nez,
je vois bien sur vous, Benjamin.
Ça commence. Et le menton, c'est tout simplement là où la peau, en fait, est la plus grasse.
Alors pourquoi certaines personnes, comme Mélanie Gomez, ont plus de points noirs ?
Ah, les bams, ça tacle aujourd'hui.
Eh bien, les spécialistes ont observé, en fait, que la pollution favorisait l'apparition de points noirs. Donc, ceux qui vivent à la campagne en auront moins. Ensuite, c'est aussi lié à ce que l'on met dans son assiette. Hein. Le sucre accélère la sécrétion de sébum. Et puis, le lait aurait un impact. Les explications du chercheur et biologiste Cyril Tellinge.
Pour le lait, c'est un peu différent, même si on a du sucre dans le lait, avec le lactose. C'est plus la stimulation de la protéine du lait, qu'on appelle la caséine en fait. Et ben, c'est la caséine qui va stimuler une hormone qui se trouve dans notre peau et qui s'appelle l'IGF-1. Alors désolé pour ces noms barbares, mais l'IGF-1 est directement à l'origine de l'acné, c'est pas la seule origine, et elle est largement stimulée par la caséine du lait.
Alors j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous les filles, vous y êtes presque, mais après 50 ans, on n'a pratiquement plus de points noirs parce que le corps en fait, va sécréter moins de sébum. Ah,
bon Benjamin, on va passer au conseil pratique pour retirer ces points noirs. Moi j'y vais avec les doigts, hein, voilà. Pas sur moi, sur les autres évidemment, hein, c'est une petite manie. Les patchs par exemple qu'on voit dans le commerce, là c'est efficace?
Alors il faut savoir qu'un point noir il va disparaître de lui-même entre 2 à 6 semaines. Le problème c'est qu'il y en a toujours un à côté qui va apparaître et donc on aura toujours cette sensation d'en avoir plein le visage. Donc pour le retirer, vous m'avez dit donc les nettoyants visage ou patch que l'on colle, c'est vrai, sur le nez avec un effet scotch. Ça ne rentre pas assez en profondeur dans la peau. Donc c'est vrai, vous aurez la peau qui sera toute lisse, mais vous n'aurez retiré que les points noirs en surface de la peau. Donc le mieux, c'est d'aller se les faire retirer, donc soit chez un dermatologue, soit chez une esthéticienne. Et je me suis rendu justement aux instituts Guinaud à Paris pour me faire retirer les points noirs à la main, au doigt, avec des cotons, faut pas être chochotte. Écoutez le reportage.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Benjamin. Donc là, je vais vous laisser vous installer sur le lit. Vous allez juste retirer votre t-shirt et vous couvrir avec la petite couverture.
Alors Stéphanie, je me suis pas rasé. Est-ce que c'est un problème?
Oui, c'est un problème parce que du coup, je ne vais pas pouvoir vous appliquer les produits sur la barbe parce qu'il n'y aura aucune utilité à que ça reste sur vos poils et pas sur la peau. On va s'arranger, on va faire en fonction pour que tout soit bien.
Bon, c'est mieux que rien.
Donc là, je vous mets le petit bandeau quand même pour protéger vos cheveux. Voilà, donc là, je commence à vous appliquer le gommage. Je ne sais pas si vous sentez directement la chaleur.
Ah oui, ça chauffe.
Voilà, donc là, du coup, je vais rincer avec des gants. Je commence à vous appliquer le masque avec à base de deux argiles, blanche et verte, pour ramollir la peau, pour avoir l'extraction de points noirs beaucoup plus facile après. Donc là, du coup, je vais vous laisser poser le masque 10 minutes.
Je patiente tranquillement. Fanny, j'ai l'impression que j'ai vécu le moment le plus agréable pour l'instant, mais je vais moins rire après, c'est ça?
C'est ça, le moment va arriver, l'extraction de points noirs. Donc là, voilà, je vais commencer. Donc là, c'est essentiellement sur le nez pour vous. Ça va, vous souffrez pas trop?
Non, ça va. Effectivement, c'est pas le plus agréable, il faut souffrir pour être beau.
Voilà, c'est bon, j'ai tout retiré. Je vais passer juste un petit coton de lotion directement après pour justement resserrer les pores. Donc là, du coup, je vous remonte un petit peu, je vais vous montrer dans le miroir le résultat.
D'accord, bah écoutez, je vais me lever. Ah oui, à le nez, il n'y a plus rien.
Il y a quand même plus d'éclat, on voit qu'elle est quand même hydratée, mais du coup avec un teint plus régulier.
Ouais bah c'est parfait, bah merci beaucoup Stéphanie.
Je vous en prie Benjamin.
Voilà, bon ça a duré une quarantaine de minutes, et puis pour le prix, il faut compter entre 50 et une centaine d'euros.
Vous êtes très beau Benjamin, effectivement, merci. Ça a très bien marché. Merci pour ce nettoyage de peau nouvelle génération. On vous retrouve bientôt, à présent c'est à vous de jouer Sophie Braffman.
Moi je vais vous parler des obsessions mode, hein, de cette rentrée, des obsessions mode, parce que chaque saison, chaque année, il y a une grande tendance. Alors il y a peu, on a eu le pyjama de jour, les cuissardes, mais pas uniquement pour aller au bois, l'imprimé léopard qui est passé de cagole à acceptable, voire très tendance. Donc on le voit, la mode invente, s'invente, se réinvente même et nous fait voyager parfois.
Mais attendez, ce sont des obsessions mode vues sur les podiums ou alors qu'on peut porter dans la vraie vie?
Alors justement, je vous ai concocté un petit mélange des deux. On a envie d'être tendance mais pas de casser sa tirelire. Donc vous allez voir trois thèmes pour cette tendance automne-hiver 2021-2022 qui vont vous aider à vous définir selon aussi votre personnalité. On commence par le premier thème, je l'ai intitulé « L'amour au coin du feu ». Alors ça c'est un thème pour vous les filles. Eh bien oui, pourquoi l'amour au coin du feu? Parce que cette tendance c'est la peau de bête bien sûr, avec une grande tendance sur la moumoute. Polenée évidemment, aperçue lors des défilés, il y en a partout, chez Burberry, chez Chloé, chez Loewe, de la fausse ou de la vraie polenée, hein, ça va dépendre. Côté accessoires, Julia, vous ne serez pas en reste. On trouvera aussi des sandales avec de la moumoute, type des Burke chez Camaïeu, alors pas Burke, hein, des Birke, les chaussures. Une très belle besace en moumoute chez Carole, travailler avec les récupérables, un immense cabas chez Oakwood en polenné pour trimballer toute sa maison et enfin un tapis en moumoute pour se lever dessus chez Blanche Porte. Voilà, tout en moumoute pour une soirée inoubliable. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qu'on va mettre en dessous de cette moumoute?
Il n'y a pas de lingerie moumoute?
Une petite lingerie, Julia. Alors, pas moumoute.
La culotte en moumoute.
Je vous ai concocté une lingerie. Alors, c'est vraiment pour les plus audacieuses et les plus sulfureuses. Vous allez voir, on assume totalement le côté oversexy chez Rouge Gorge avec leur toute nouvelle ligne rose. Culotte harnais, hein, pour se faire attraper ou s'accrocher aux bûches, c'est à vous de voir. Le body ultra sexy tout en rouge, le porte-jartelle et le serre-tail aussi.
Ça, très pratique, très confortable.
Très confortable, hein, mais c'est vraiment une soirée qui va s'embraser au coin du feu. Alors on continue avec notre deuxième thème intitulé je m'envoie en l'air.
Oh là là, mais vous filez la métaphore. Hein.
Ah oui, alors vous allez voir, pas tout à fait, parce qu'on est dans une allure totalement spatiale. Et pourquoi, obsession mode de la rentrée, la veste matelassée, qu'on voit absolument partout. On l'a vu sur les défilés, notamment chez Isabelle Marant, où elle était fleurie avec de très grandes épaules, comme dans les années 80. Alors la veste matelassée, c'est une obsession mode que j'aurais pu aussi ranger dans le goût du moche. J'ai hésité, puis je me suis dit en fait non, c'est une allure un peu cosmonaute. On l'a vu chez H&M en bleu ciel ceinturé et cosmique, chez Barbour, alors là c'est plutôt le retour du chasseur alpin, ou si vous avez une manif avec les Patriotes ou le Rassemblement National, voilà, on est vraiment dans l'esprit. Chez Other Stories, aussi blanche, un peu loose, ultra cosmique, très 2021, l'Odyssée de l'espace. Et pour parfaire ce thème, on la porte avec une paire de bottes à semelles crantées. Oh. Est-ce que vous avez vu cette obsession mode de la rentrée? C'est des grosses bottes un peu écrase-merde.
Non. Je crois que j'avais ça quand j'avais 16 ou 17 ans.
On peut le dire, bah voilà, alors elles sont absolument partout. CA, H&M, Lemon Jelly, donc vraiment dans des marques à petit prix. C'est très tendance et ce n'est pas toujours très beau, il faut bien le dire.
Il y a un troisième thème, non?
On fait un troisième thème, Julia. Il est pour vous, Tea Time avec Elisabeth, la reine d'Angleterre.
Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson de Philippe Catherine.
Ah oui, on l'adore.
Voilà, on adore hein, ce qu'il dit dans le refrain. Alors attention, hein, quand la reine d'Angleterre dit d'aller se faire foutre, elle cligne des yeux, hein, tout simplement, parce que c'est quand même la reine d'Angleterre. Donc on est dans le flegme british, une élégance extrême, des carreaux cette saison, mesdames, encore et toujours. Pour une ambiance château de Balmoral en Écosse, le carreau écossais, on adore ça, il est très tendance cette saison, en tenue, en sac, en accessoires ou en chaussures. Max Mara vous propose des mocassins à franges et à talons.
Oh, ça doit être joli ça.
Ah, c'est très joli, avec une petite jupe lissée. Du carreau en veux-tu en voilà, notamment chez Benetton, qui met la couleur à l'honneur depuis que Jean-Charles de Castelbajac a repris la DA. Et on ne peut que s'en réjouir, jamais le « Do you like a cup of tea ?» n'aura été autant d'actualité. Alors mesdames, je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous serez loveuse en moumoute, spatiale forever ou tout simplement royalement british?
Et moi, j'ai le droit de choisir royalement british chez vous.
Moi, j'aimerais bien mixer les trois thèmes.
Je savais.
C'est abusé, non?
je savais que vous aviez envie de mixer. Vous voulez un peu de carreau, un peu de cosmonaute. Hein.
Et une culotte moumoute.
Et une culotte. Je sens qu'il va falloir que je travaille sur la culotte moumoute.
C'est ouais. Ça. Mais, ouais. Non, mais ça, c'est pas possible. On peut pas mixer.
Bah, là, moi, je dis qu'on
finit
tout
sur
faire.
Au point du feu, là, attention.
Alors, on peut tout faire du moment qu'on a du style. Vous en avez, tout est possible.
Oh, j'adore quand vous me donnez confiance en moi, Sophie Graffman. Merci beaucoup. Merci à vous également, Benjamin Lévesque. On va vous retrouver tous les deux très bientôt dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances mode et d'autres conseils beauté. En attendant, Mélanie, place à la santé et au bien-être.
C'est ça, Julia. Dans quelques minutes, ce sera notre dossier santé avec un point sur l'arthrose. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre cette maladie. Et avec notre invité, le rhumatologue et professeur François Ranoux, nous ferons le point sur ce qui fonctionne vraiment pour soulager les patients et même ralentir l'évolution de l'arthrose, car oui, c'est possible. Alors restez sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, Bienfait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia, on va prendre surtout soin de votre santé.
Oui, c'est tout à fait ça Mélanie, puisque dès midi, comme tous les jours, nous serons accompagnés d'un invité. Et aujourd'hui, c'est le professeur François Ranoux qui sera à nos côtés. Avec lui, à l'occasion de la journée mondiale contre l'arthrose, on parle de cette maladie qu'on ne sait pas guérir à ce jour. Mais heureusement, il existe des moyens de la ralentir. On va faire le point avec lui dans quelques instants.
Et puis à midi 20, ce sera notre petit bonus de l'émission, la chronique vite fait, très bien fait. Et aujourd'hui, c'est vous, Anna Roy, qui serez aux commandes. Vous êtes sage-femme et avec vous, on va revenir sur ce pilier de notre corps qu'on néglige malheureusement encore trop souvent, notre périnée, c'est ça?
Exactement. Il y a fort à dire.
Okay. Oh là là, elle se retient pour tout à l'heure.
Elle se retient, il y en a tellement.
C'est ça.
Merci beaucoup, Anna. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Voilà, on démarre tout de suite la dernière demi-heure de cette émission consacrée à notre santé. Plus particulièrement, aujourd'hui, on va attaquer ce dossier consacré à l'arthrose. On est dans l'actu aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et pour faire le point avec nous, ben, vous êtes là. Professeur François Ranoux, bonjour.
Bonjour.
Alors professeur Ranoux, merci d'être avec nous. Vous êtes rhumatologue et chef du service de rééducation et de réadaptation de l'appareil locomoteur et des pathologies du rachis à l'hôpital Cochin à Paris. Alors d'abord un peu de contexte. Cette maladie, l'arthrose, c'est l'une des plus fréquentes en France et elle est lourde de conséquences.
Alors c'est clairement la maladie la plus fréquente. Hein. C'est, après ça dépend comment on compte, mais on est plutôt entre 6, 8, 10, 12 millions si on rajoute l'arthrose rachidienne.
Avec l'hypertension, ça doit être à peu près la plus fréquente,
ouais,
c'est ça?
Ouais, ouais, c'est au-dessus.
Au-dessus.
Alors,
même.
J'ai peut-être un petit conflit d'intérêts, mais c'est de cet ordre-là. Alors la grosse différence par rapport à toutes ces maladies, l'hypertension ou le diabète, c'est clair que ce n'est pas une maladie mortelle.
Mmh. Mais donc, très handicapante.
Mais, et vous, première source de handicap dans la population mondiale aujourd'hui. Hein. Depuis toujours, depuis qu'on est capable d'évaluer le handicap de la population mondiale, depuis 1991, tous les 2-3 ans, le Lancet sort un espèce de classement de la maladie la plus handicapante jusqu'à la moins handicapante. C'est 250 maladies, 192 pays. Si vous prenez l'arthrose périphérique, le rachis, l'arthrose cervicale et lombaire, premier, mais depuis toujours. Ouais, médaille d'or depuis que ça existe.
Et je crois que le principal facteur de risque, soyons honnêtes, hein, c'est l'âge. Donc avec le vieillissement de la population, bah, c'est pas prêt de s'arranger. Hein. On commence par les trucs qui fâchent et puis après on va donner des bonnes nouvelles.
Oui. Oui, vous commencez par le pire, vous commencez par ce qu'on n'est pas capable de modifier.
Bah oui,
alors, en médecine, par définition, on s'intéresse aux facteurs modifiables. Donc c'est un peu dur.
C'est un peu dur, justement.
Mais elle a raison, on vieillit, on a de plus en plus de vieux. Donc forcément, j'imagine...
Oui, mais là-dessus,
plus...
je ne peux pas avoir d'action.
Comment ça,
au contraire, je ne peux qu'essayer de vous faire vieillir encore plus, donc d'avoir encore plus de chances d'avoir de l'arthrose. Donc c'est terrifiant.
Non, on n'en parle plus. Alors,
c'est fini.
C'est fini, on n'en parlera plus. Juste un petit rappel technique quand même. C'est quoi l'arthrose précisément? Il se passe quoi dans le corps des patients qui en ont?
Alors c'est une maladie qui attaque les articulations, toutes les articulations, et qui va intéresser à la fois le tissu synovial. C'est une espèce de tissu mou qui est dans l'articulation, qui s'enflamme très vite. Le cartilage et puis ce qu'on appelle l'os sous-chondral. En gros, le tissu synovial va s'enflammer pour des raisons X et Y. On connaît les raisons, mais il y a de plusieurs. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une destruction en fait du cartilage et aussi de l'os. Et il va y avoir une réaction quand même de l'organisme qui est d'essayer de lutter contre cette destruction et qui va fabriquer ce qu'on appelle les becs de perroquet, vous savez, ce qu'on appelle les ostéophytes en médecine, mais c'est ce qu'on appelle les becs de perroquet. Il se trouve que cette réaction de l'organisme n'est pas très adaptée en plus, donc ça fait partie de la maladie.
Mais alors que je comprenne bien, on ressent quoi quand on a de l'arthrose?
Alors ça se manifeste.
Elle n'en a pas encore, je crois. Hein, c'est pour ça que
je me demande si j'ai pas déjà eu là au niveau des mains et effectivement ça c'était alors, assez pénible.
Je connais pas votre âge, donc
46 ans, docteur.
Voilà, ça commence souvent à cet âge-là chez la femme.
46 ans et un mois, donc c'est bon.
C'est souvent chez la femme typiquement, ça commence aux alentours de 50 ans, périménopause et c'est douleur des doigts.
Ah les mains.
Et douleur de la racine
super.
Des doigts.
Je suis en périménopause
et j'ai
de l'arthrose.
On va passer aux bonnes nouvelles parce que Julie elle est en train de déprimer là, ça y est. La bonne nouvelle docteur c'est que bon oui, on n'a pas de médicament miracle, on ne sait pas la guérir définitivement cette maladie, mais par contre on sait bien la ralentir. Ça commence bien souvent par perdre du poids, mais il y a des études qui le prouvent. Vous voulez juste nous faire maigrir pour nous embêter?
Ah non, pas du tout. Alors c'est pas pour toutes les arthroses, c'est pour l'arthrose du genou. Ça marche pour l'arthrose du genou. D'ailleurs, il y a eu des études, notamment françaises, chez des super, ce qu'on appelle des super obèses, où, vous savez, on leur fait de la chirurgie bariatrique, etc. Mmh. Donc, ils perdent 100, 150 kilos. Et on montre très bien que dans ces cas-là, la gaulardrose est contrôlée, en tout cas, cliniquement.
Ils ont moins mal aux genoux, vraiment,
beaucoup
il y a moins de douleurs.
Ouais. Mais même les patients nous le disent. Hein. Souvent, je leur demande, je leur dis, mais ils viennent me voir, ils sont symptomatiques. Je leur dis, mais il y a... probable qu'il y a un an, vous savez, vos genoux, c'était les mêmes. Hein. Vous n'avez pas pris du poids. Et souvent, ils vous disent, ouais, j'ai pris 5 kilos, j'ai pris... Mmh. Et d'ailleurs, un des gros problèmes, c'est de les faire maigrir. Vous savez que c'est très compliqué de maigrir. J'en sais quelque chose. Et en fait, si vous voulez, ce que je leur dis, justement, je ne leur dis pas, perdez 15 kilos et je ferme la porte, au revoir, démerdez-vous. Je leur dis, revenez au poids où vous n'aviez pas mal.
Ah d'accord.
Et c'est beaucoup plus facile, parce que souvent, c'est quelques kilos.
Mais c'est quelques kilos qui font la différence. Mais je comprends pas bien en quoi ça peut faire une différence dans les mains, le poids. Autant alors, les genoux, je peux comprendre. Mais
c'est
les
une
mains.
Bonne question.
Mais j'ai que des bonnes questions.
Ouais. En fait, c'est vrai. On sait que chez les patients obèses aussi, on a une augmentation de l'incidence de l'arthrose digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a probablement pas que des facteurs, on va dire, des facteurs de poids, des facteurs mécaniques.
Il n'y a pas que la pesanteur, quoi.
Non, là, on sait que l'obésité, le surpoids est une maladie générale, en fait.
Ça fait de l'inflammation dans l'organisme,
exactement,
en fait.
Exactement, et ça fabrique, en fait, probablement des facteurs inflammatoires qui, en plus, ont un tropisme, c'est-à-dire qu'ils aiment les articulations et ils vont dans l'articulation et ils détruisent l'articulation.
Alors, deuxième facteur, et qui va bien aller avec le premier d'ailleurs, pour ralentir la progression de l'arthrose et les douleurs qui vont avec, bouger, faites de l'activité physique. Là aussi, c'est prouvé ça vraiment, c'est comme un médicament le sport ?
Alors, souvent, on en parle parfois, mais c'est compliqué. Pour savoir si un médicament marche, on appelle ça l'effet taille. C'est un artifice statistique, d'accord ? Et quand on est à zéro, ça veut dire que le traitement n'est pas mieux que le placebo. Quand on est au-dessus de 0, de 0, en positif, ça veut dire que le traitement marche et que c'est cliniquement pertinent au-dessus de 0,2. Les anti-inflammatoires dans l'arthrose, vous êtes à 0,4, donc ça veut dire que ça marche sur la douleur. Les traitements non pharmacologiques, c'est-à-dire la rééducation essentiellement, mais également les orthèses, on est plutôt entre 0,5 et 0,8. Donc non seulement ça a un effet, mais la grosse différence avec les anti-inflammatoires par exemple,
c'est que c'est pas toxique, il n'y a pas d'effet secondaire.
Il y a peu d'effets secondaires.
C'est génial, mais n'importe quel sport on peut faire ou il y en a des...
Du footing quand on a les genoux en morceaux, alors, c'est un peu compliqué, j'imagine.
Il y a quelques sports, au cas par cas quand même, on doit souvent, par exemple, c'est vrai que la course à pied pour l'arthrose du dos, c'est pas terrible. Mais je ne fais pas arrêter malgré tout la course à ces patients-là s'ils ne peuvent pas s'en passer. Je leur dis seulement fractionner, etc. Après, d'une manière générale, le meilleur sport, c'est le sport qu'on va faire.
Et longtemps.
Et voilà. Et donc, je retourne la question au patient, toujours. Je dis, mais faites, si vous me dites c'est du tennis, si vous me dites c'est du handball, si vous me dites c'est du rugby, je vous dirais, bah, allez-y.
Si ça vous plaît et que vous le faites.
Mais voilà,
vraiment,
parce que sinon, si je vous dis, faites 30 minutes de vélo, 10 minutes de course, mais vous le ferez pendant un mois.
Non, il faut le tenir. Alors, en pharmacie, on voit plein de compléments alimentaires, soi-disant, qui font du bien à nos os, à nos cartilages. Est-ce que ça sert à quelque chose ou, comme dirait l'autre, c'est de la poudre de perlimpinpin ?
Alors, Il y a deux choses. Vous allez avoir ce qu'on appelle des compléments alimentaires et d'autres qui sont véritablement des médicaments. Alors, c'est clair que les médicaments existent toujours, mais ils ont été déremboursés. C'est-à-dire que maintenant, on les prescrit toujours. Mais... Alors après, quel est leur effet ? Ils ont un effet symptomatique. Vous voyez l'effet taille dont je vous ai parlé tout à l'heure ? On est aux alentours de 0,30, 0,40.
Bon, diminue un peu les douleurs. Quoi.
Voilà. Et sans effet secondaire. Effets secondaires.
Ça, c'est des médicaments, mais les compléments alimentaires.
Mais en fait, parce que, pour dire la vérité, c'est que, si vous voulez, les compléments alimentaires que vous allez trouver ressemblent
à ces médicaments.
Et en France, ils sont médicaments. Dans d'autres pays, ils ne sont que compléments alimentaires. Donc là, on est dans des subtilités.
C'est des trucs à base de quoi pour ces compléments alimentaires en général ?
La chondroïtine sulfate, la glucosamine, y a les insaponifiables de soja et d'avocat.
Ça peut avoir un effet, en tout cas.
Et en fait, ça a un effet symptomatique.
D'accord.
Mais ça n'a pas d'effet sur la structure. Mais les anti-inflammatoires
ça
non plus.
Ça n'a pas régénéré l'os ni le cartilage.
Non, ça ne régénère rien.
D'accord. Professeur Hanou, ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous. Juste après, on va passer aux questions de nos auditeurs sur l'arthrose. On en a déjà pas mal de questions pour vous. Et je le rappelle, vous pouvez encore nous en poser via Twitter ou sur le hashtag Europe 1. Encore sur notre répondeur, le 3921. A tout de suite sur Europe.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio avec Mélanie Gomez. Nous sommes dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et plus précisément, on s'intéresse aujourd'hui à l'arthrose. On en parle avec vous, professeur François Hanou. Je rappelle que vous êtes rhumatologue et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Alors on l'a dit, on va passer aux questions de nos auditeurs, à commencer par celle-ci sur la page Facebook d'Europe 1. C'est Marianne, elle a 54 ans, elle vient d'apprendre justement qu'elle a de l'arthrose au genou et ça l'inquiète car elle adore le ski. En hiver, elle le pratique souvent. Elle demande si ce diagnostic signe la fin pour elle de ce sport qu'elle adore.
Il y a une vingtaine d'années, ou même pas, peut-être 5-10 ans, j'aurais dit que c'était compliqué, notamment quand on a de l'arthrose, les sports pivots, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, les chaussures ont beaucoup évolué. Et puis, deuxième chose, on se prépare maintenant, avant d'aller au ski, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, d'autant plus si on a une arthrose du genou, se préparer, c'est quoi ? C'est faire du renforcement des muscles qui stabilisent l'articulation.
Dans le mois au moins qui précède le ski, même un peu plus, soit plusieurs mois, on va dire. Ouais, maintenant, quoi. On est en septembre pour Noël,
là,
admettons.
Bon, il neige pas encore, mais oui, c'est maintenant. Okay, il faut avoir des bons muscles, en fait. Des muscles qui stabilisent une articulation, ça protège de l'arthrose.
Plus il y a de muscles sur une articulation fragile, mieux c'est
voilà,
ça.
Plus ils sont, je vais dire, puissants, ils sont capables de bien stabiliser les choses. En fait, il faut des bons muscles et un bon système proprioceptif, vous voyez, c'est un système nerveux automatique. Voilà ce qu'il faut. Après, et puis dernière chose aussi, c'est que maintenant il existe des exosquelettes.
C'est quoi ça ?
Alors des exosquelettes, c'est un peu comme une, si vous voulez, c'est un peu comme une orthèse, c'est-à-dire, je vais essayer de trouver un mot un petit peu
espèce
plus, une genouillère,
ouais, voilà,
articulée. Sauf que cette genouillère articulée,
ça va skier à votre place.
Non, elle est posée sur vos chaussures.
Ah oui,
et donc vous êtes en suspension dans vos chaussures. Et ça, ça diminue d'environ 40%.
Ça enlève un peu de poids, peut-être
40%.
Ouais, ah ouais.
Et donc, bah, moi, chez mes patients arthrosiques, c'est clair que...
Ça marche. Ça coûte cher, ça, ou pas ?
Oui, ça coûte cher.
Combien ?
Ça vaut entre, je ne sais pas, 600, 800 euros.
Ouais. Bon, c'est évidemment pas remboursé.
Mais non, là, on est typiquement...
Mais pour les skieurs
on est dans
amoureux,
le bien-être.
Voilà,
on est dans le bien-être, mais dans le bon bien-être.
Bon. Hein,
ce n'est pas du charlatanisme.
Ça fonctionne, mais il faut mettre la main au
portefeuille. D'ailleurs, je sais que l'utilisation est pas mal, entre guillemets, déviée. C'est qu'il y a beaucoup de professionnels du ski qui l'utilisent, tout simplement pour pouvoir skier plus longtemps durant la journée.
Donc c'est bon signe, très bien. Et pour d'autres sports, peut-être ça existera aussi des exosquelettes comme
oui,
ça
en
pour
fait,
d'autres.
Oui, sauf que là on a vraiment le bon système. On est sur les chaussures. Vous voyez, trouver un exosquelette, je sais pas, de l'épaule ou du coude dans le tennis, ça me paraît compliqué.
Allez, professeur Ranou, il y a aussi cette question d'Olivier. Il a 41 ans sur le 3921, notre répondeur, et dont la maman, dit-il, est pleine d'arthrose. Et c'est pas si récent comme maladie quand même. Il dit, on a réussi à faire un vaccin contre le Covid en un an. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de traitement pour guérir définitivement l'arthrose ? Il demande s'il y a un espoir de ce côté-là.
La question, elle est excellente. Elle recoupe ce que je disais au début. Ce n'est pas une maladie comme les autres. C'est une maladie très fréquente, donc on l'appelle du grand nombre, et qui ne tue pas. Aujourd'hui, nos politiques de santé n'ont pas été développées pour ça. Notre politique de santé, elles ont été développées pour quoi ? Pour améliorer, augmenter l'espérance de vie, avec une qualité de vie correcte, si possible. Point à la ligne, c'est
mais
tout.
Mais la recherche s'y intéresse ? Il y a des choses qui permettent peut-être de les régénérer, ces cartilages ?
On a tellement fait quand même d'avancées dans le cardiovasculaire, en onco, etc., que oui, bien évidemment. Et puis en plus, le politique s'aperçoit que c'est une maladie qui coûte très cher.
Oui, donc c'est pas mal de trouver des solutions.
Oui.
Il y a aussi Ludovic sur Twitter. Ludovic est très sportif, dit-il. Il pratique le rugby et la course à pied depuis des années et s'est déjà pris au rugby pas mal de chocs. Il a été blessé plusieurs fois. Il demande si c'est vrai que les sportifs ont plus de risques d'arthrose, alors que vous venez de dire que bouger plus permettait justement de l'éviter. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à Ludovic ?
Comme toujours, tout ce qui est extrême et délétère, c'est les sportifs professionnels qui sont, c'est clair, hein, les footballeurs professionnels, ils sont exposés à la coxarthrose postérieure, c'est-à-dire à l'arthrose de hanche, à l'arthrose de genou. Vous avez les rugbyman à l'arthrose cervicale.
Donc ils doivent se surveiller plus, ces populations-là ?
Mais eux, c'est... Je les appelle souvent mes souris transgéniques, c'est-à-dire c'est
pauvres.
Des gens, ils sont très peu.
Ouais.
Mais pour nous, c'est des exemples parce que médicaux, ça nous permet de comprendre plus vite la maladie parce qu'eux, ils font tout plus vite. Et au lieu d'avoir de l'arthrose à 70, ils en ont à 40. Donc, en tout cas, au niveau professionnel, c'est clair, quand on est à un niveau professionnel, c'est un facteur de risque. Par contre, au niveau loisir, ça n'est absolument pas un facteur de risque. Au contraire, c'est plutôt un facteur protecteur.
Bouger, vous protégerez.
Exactement.
Comme d'habitude. Merci beaucoup.
Et comme l'absence de sport
est
délétère.
Et tout
ce qui est extrême.
Et manger trop et peser trop, c'est délétère également. Merci beaucoup, professeur Ranou, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils et pour cette mise au point très intéressante.
Merci, professeur. À présent, Julia, il est l'heure. Il est midi 20. C'est le moment de notre chronique vite fait. Très bien fait avec vous, Anna Roy. Cette chronique, c'est en 5 minutes, en gros, notre dernier petit conseil du jour pour prendre soin de nos auditeurs. Et donc aujourd'hui, on va prendre soin de leur périnée avec vous, Anna. D'abord, en 3 mots, définissons bien les choses. C'est quoi le périnée ?
Alors, le périnée n'est pas un muscle, comme on nous le fait croire, mais l'ensemble des parties molles, on dit en médecine, c'est-à-dire l'ensemble des structures qui ferment le bassin. Donc, vous avez une dizaine de muscles environ, des nerfs, des vaisseaux. En fait, c'est une structure très complexe. Et souvent, je dis oui, c'est indispensable à la survie, mais c'est vrai, c'est pas une lubie de sage-femme. C'est qu'en fait, sans ce plancher, sans ce hamac de soutènement, et tout ce qu'on a dans le ventre tomberait par terre. Autrement dit, l'utérus, l'intestin, les voies digestives, tout
fout le camp.
Oui, voilà. La fameuse descente d'organes.
Voilà.
Alors la rééducation du périnée, nous sommes bien d'accord que c'est pour les femmes qui ont accouché et celles qui ont des fuites urinaires, la ménopause par exemple.
Eh bien non, et ça c'est ce que tout le monde croit.
Vous avez tout faux, Julia.
Non. Et c'est dommage, en fait, les femmes attendent souvent, alors les hommes n'en parlons pas, mais les femmes attendent d'avoir eu des enfants pour s'y intéresser. Or, en fait, il y a des femmes qui ont des troubles périnéaux bien avant, dès même qu'elles aient 17, 20, 22 ans. Donc non, en fait, c'est pour tout le monde, homme ou femme. Et souvent, alors, il y a des signes. Alors, les signes sont multiples. Hein. Ça peut être les fuites, on les connaît tous, mais ça peut être des douleurs, ça peut être des sensations de pesanteur, ça peut être 10 milliards de choses. Donc, à partir du moment où votre périnée s'exprime, il vous dit, tiens, ça va pas, il faut l'écouter. Donc non, c'est homme, femme, tous âges, que vous ayez 17 ou 84 ans.
Donc on n'attend pas d'avoir eu des enfants, hein, parce que c'est souvent le cas.
Non, 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 ni l'un ni l'autre. Ni il faut y aller trop tard, ni il faut y aller trop... Enfin, à tout âge de la vie, en fait. Bon,
donc si je comprends bien, tout le monde peut y prétendre et il n'est jamais trop tard, ni trop tôt. Comment on s'y prend, alors, Anna ?
Eh bien, votre périnée... Alors, déjà, vous, les femmes, on a de la chance, c'est qu'on a des visites de prévention, vous savez, gynécologiques. Donc là, profitez-en. Vous demandez à votre gynéco, votre sage-femme, « Ah, est-ce que vous voulez bien checker mon périnée ?» Il se le fera volontiers. Mais si vous êtes dans la vie de tous les jours, enfin voilà, que vous n'allez pas forcément chez le gynéco, dans ce cas-là, eh bien, s'il montre des signes, il faut aller voir soit un médecin généraliste, soit une sage-femme, soit un gynéco, soit un médecin urologue, pour qu'il fasse un bilan de votre périnée. Ça, c'est vraiment important. Et en fonction de ce bilan, eh bien, soit on vous dit « Ah bah tout va bien », soit on vous dit « Ah, c'est pas terrible ».
D'accord, mais on choisit plutôt un kiné ou une sage-femme ? Enfin, je veux dire, c'est qui, ceux qui aiment le plus le périnée ?
Alors voilà, ça, vous voudriez que je dise... Souvent, on me demande « Alors, Anna, dites,
sage-femme,
qu'est-ce qui est mieux ?»
Sage-femme,
eh ben,
bah non.
Non, 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 non.
Il y a plusieurs méthodes, hein, je crois, en plus.
Exactement, il y a plusieurs méthodes. Et surtout, les kinés ou les sages-femmes, il n'y en a pas qui soient meilleurs les uns que les autres. C'est des gens qui aiment ça. Moi, j'aime bien le périnée, mais il y a des consoeurs sages-femmes qui détestent ça. Et pour les kinés, c'est exactement la même chose. Donc, il faut trouver quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et ça, on le trouve. Et pour les méthodes de rééducation, effectivement, il y a deux méthodes de rééducation. Il y en a dites avec sonde et il y en a dites avec manuel, c'est-à-dire avec les doigts. Là encore, ce n'est pas mieux manuel ou ce n'est pas mieux avec sonde. Ça dépend de l'évaluation qui est faite au départ. Mais par contre, attention, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Un kiné ou une sage-femme qui vous propose que la sonde, c'est bizarre. C'est bizarre. Sans vous avoir examiné.
Il faut qu'on nous propose les deux
techniques. Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire, bah, écoutez, il faut que je vous examine avant pour pouvoir répondre à la question. Si quelqu'un vous dit d'entrée de jeu, ce sera la sonde, ah bon ? Vous êtes sûr ?
On se méfie.
Bon, moi, en fait, je trouve que j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un moyen de se rééduquer le périnée tout seul pour les personnes très très actives qui n'ont pas le temps de venir vous voir. Je suis sûre qu'il y a même des tutos pour ça, non ?
Non, mais oui, tout à fait. En fait, c'est possible de se rééduquer, mais à condition que vous faites un bilan au départ avec une sage-femme ou un kiné qui vous apprend à le faire toute seule. Moi, je me rééduque mon périnée tous les mardis, par exemple, toute seule. J'ai besoin de personne.
On saura tout sur le planning d'Anna Roy, voilà, tous les mardis. Rééducation du périnée.
J'ai besoin de personne, mais ma formation initiale, entre guillemets, a été assurée par une consoeur sage-femme et après avec un kiné.
Mais c'est comme avec un coach, en fait, il vous donne les exercices et après vous pouvez
exactement
les reproduire
chez vous. Et si vous voyez que vous avez du mal, que vous n'arrivez pas à faire vos exercices, et ben vous voyez votre praticien toutes les semaines. Mais en soi, vous pouvez tout à fait le faire seul, à condition d'avoir été formé. Bien
et ça,
sûr.
Pour toute la vie ou au bout d'un moment.
Bien sûr, pour toute la vie. Moi, tous les mardis, c'est le périnée.
Oui, mais jusqu'à la fin de vos jours.
Eh ben oui, jusqu'à la boîte à sapin, ça c'est sûr.
Là, vous avez le sport, vous, le jeudi, par exemple. Là, ben maintenant, il faut mettre le lundi.
Non, mais c'est
périnée.
Une question d'entretien. Oui, il faut vraiment. Ouais. C'est comme c'est quelque chose qu'on sollicite pas forcément. Oui, c'est, il faut que ce soit un peu ritualisé.
Bon, le mot de la fin, c'est quoi alors ?
Mais c'est trop bien le périnée, en fait. Être le chef de son périnée.
Vous
allez voir.
Il y a une sage-femme qui peut dire ça.
Non, vraiment, je vous assure, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une grande qualité de savoir utiliser son périnée.
Merci beaucoup, Anna, pour cette chronique vite fait, très bien fait. Je confirme, on a les clés désormais pour un périnée au top du top. Merci. Voilà, bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr lundi à la même heure, dès 11h. Et Julia, quelle sera notre grande question lundi ?
Alors, lundi, Mélanie, notre question sera sur un sujet que j'affectionne, mais tout particulièrement. Alors, vous commencez à connaître la reine de l'organisation que je suis. Et notre question sera : notre maison a-t-elle besoin autant que nous d'une cure détox ? On va parler rangement, décoration pour une vie plus heureuse. Ce sera un bon sujet pour démarrer la semaine.
Tout à fait. Et puis, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances, de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarts.